Hélène Philly, bonsoir.
Bonsoir à tous. Un projet à 10 milliards de dollars pour Total en Ouganda, des puits de pétrole et un oléoduc de 1400 km. De quoi faire vivre le pays pendant plusieurs décennies, mais aussi de quoi ravager l'environnement, dénoncent les ONG. Orpea toujours dans la tourmente. Deux enquêtes ouvertes, administratives et financières. Le face-à-face avec la ministre a duré moins d'une heure ce matin. Le leader mondial des EHPAD qui répète ne pas se reconnaître dans le livre Enquête, les Fossoyeur. Question dans ce journal sur son modèle économique. Dans l'actualité encore, deuxième jour du procès de Nordal Lelandais accusé du meurtre de la petite Maëlys. Le témoignage de son ancien meilleur ami a bouleversé la cour. Ces montagnes de déchets médicaux qui inquiètent l'OMS, la grève à Pôle emploi, un quart des agents mobilisés, et puis le télétravail, plus de contraintes à partir de demain, mais certains départements en font encore la pub pour gagner de nouveaux habitants. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, on parle de votre nom de famille. Vous l'aimez, vous le détestez, de toute façon vous n'avez pas trop le choix, mais parfois aussi, votre nom c'est celui d'un père violent, d'un père absent, le simple fait de porter ce nom vous renvoie à ce traumatisme. Une proposition de loi déjà passée en première lecture veut simplifier les changements de noms qui sont aujourd'hui un vrai parcours du combattant. On en parle ensemble et c'est peut-être votre cas. Ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. Après avoir décidé de quitter la Birmanie et sa junte militaire, 30 ans d'exploitation gazière, Total arrive donc en Ouganda avec un projet titanesque. 10 milliards de dollars vont être investis pour forer des centaines de puits de pétrole. Le PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, a officiellement lancé la phase de construction aujourd'hui depuis Kampala, la capitale ougandaise. Julie Pietri, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a 16 ans, l'Ouganda a découvert qu'il y avait de l'or noir sous ses pieds et il espère aujourd'hui, grâce à Total, devenir un Eldorado pétrolier.
Oui, ce gisement, l'Ouganda sait effectivement qu'il existe depuis 16 ans dans la région du lac Albert, c'est le 7e lac d'Afrique et l'un des plus riches en poissons au monde. En fait, le pétrole est sous les eaux du lac et sous ses rives. Il y a là plus de 6 milliards de barils de brut à récupérer, ce qui veut dire pour l'Ouganda 25 à 30 ans d'extraction pétrolière avec l'argent qui va avec. Pour exporter cet or noir, Total, en partenariat avec un géant pétrolier chinois, va faire construire un oléoduc qui va traverser l'Ouganda, puis la Tanzanie, plus de 1400 kilomètres, vous l'avez dit, pour accéder à l'océan Indien, un booster d'économie, se réjouit déjà le président ougandais, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 36 ans. Il félicite Total aujourd'hui, nous sommes maintenant prêts. Le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui espère un début de production dès 2025, parle de son côté d'un projet majeur pour l'Ouganda et la Tanzanie. Il assure que les installations limiteront les gaz à effet de serre. Son ambition, dit-il, c'est de faire là-bas un projet exemplaire en termes de partage des richesses et de développement durable.
Un méga projet qui peut faire vivre le pays pendant les 30 années qui viennent, mais qui n'est évidemment pas neutre pour l'environnement. C'est ce que pointent les ONG qui dénoncent l'impact de ce projet sur le réchauffement climatique, mais aussi des atteintes aux droits humains, car il va provoquer des déplacements de population. Juliette Renaud, porte-parole de l'ONG Les Amis de la Terre.
Total ne cesse de dire que leurs projets Tilanga et ICOP vont produire un impact positif net sur la biodiversité. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, puisque là encore une fois on parle de plus de 400 puits de pétrole, dont un tiers à l'intérieur même d'une aire naturelle protégée. On parle d'un oléoduc qui va traverser plusieurs écosystèmes fragiles, le bassin du lac Victoria, donc on parle des sources du Nil. Et pour nous, ce projet ne doit pas se faire pour ses impacts environnementaux, mais aussi climatiques. C'est vraiment le type même de projet qu'il ne faut pas faire. Pour limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré, il ne faut tout simplement pas extraire de nouvelles énergies fossiles. Là, on parle, selon les mots même de Total, du plus grand oléoduc chauffé au monde. On parle de 400 puits, dont un tiers dans une aire naturelle protégée. Donc ce méga projet est tout simplement un non-sens.
Juliette Renaud avec Sandy Dauphin. Plusieurs banques étrangères ont déjà annoncé publiquement qu'elles ne financeront pas le projet. Des interrogations en France aussi. Selon nos informations, plusieurs grandes banques refusent d'y être associées, dont le Crédit Agricole.
Deux enquêtes lancées et un groupe sous pression.
Rude journée pour Orpea, convoquée par la ministre Brigitte Bourguignon ce matin pour rendre des comptes sur ses activités. Champion de l'optimisation de ses dépenses, a-t-il profité de l'argent public au détriment des personnes âgées? La commission des affaires sociales a aussi demandé à entendre le PDG de l'entreprise qui lui dément les allégations, minimise. L'humain est au cœur du métier. Le secteur reste toutefois celui d'une croissance insolente. Bonsoir Thibaut Giraud, Thomas Giraudot.
Bonsoir.
Très rentable aussi grâce à sa stratégie dans l'immobilier.
Oui, Orpea fait beaucoup de profits sur son patrimoine immobilier. Le groupe construit ou rachète des EHPAD déjà existants avant de les revendre quelques années plus tard, en pochant au passage de belles plus-values, nous explique un analyste financier. Pourquoi d'abord ? Parce que les EHPAD d'Orpea se trouvent essentiellement dans les grandes villes, là où les prix de l'immobilier grimpent, donc où les plus-values à la revente sont les plus fortes. Et quand il cède ses EHPAD, tout en continuant d'ailleurs de les exploiter, Orpea trouve assez facilement des investisseurs prêts à acheter des parts qui sont en grande partie défiscalisées en plus. Ils sont aussi attirés par un marché forcément d'avenir. Les Français vivent de plus en plus vieux. Les EHPAD devront accueillir 15% de pensionnaires en plus d'ici 2030, selon le ministère de la Santé. Les plus-values encaissées, les parts cédées, Orpea utilise ses profits pour construire de nouveau d'autres EHPAD. Et l'opération peut recommencer, poursuit un autre bon connaisseur du secteur. Le groupe veut construire ainsi plus de 26 000 places supplémentaires d'ici 5 ans en France et à l'étranger.
Explication signée Thomas Giraudot. Et Jean Castex a encore promis cet après-midi à l'Assemblée nationale plus de contrôle. Le Premier ministre qui était interrogé aussi sur l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali. Faut-il que les troupes françaises encore présentes pour lutter contre les groupes djihadistes quittent le pays ? La France se donne 15 jours pour répondre et elle ne décidera rien seule, a précisé aujourd'hui Jean Castex.
Nous agissons dans un cadre partenarial avec nos alliés africains, nos alliés européens, pour nous réorganiser de façon à conserver l'objectif même et la finalité de notre présence dans cette partie de l'Afrique, à savoir la lutte contre le terrorisme.
Jean Castex, suivi à l'Assemblée nationale par Maxence Lambrec. La campagne présidentielle à 68 jours du premier tour. Est-ce qu'elle passionne comme un faux plat avant l'officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron ? Est-ce que les Français iront voter ? Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
L'abstention est un sujet qui préoccupe de plus en plus les équipes des candidats.
Oui, alors il y a l'ERN, Époque FN, qui est pionnier en la matière et qui fait du porte-à-porte inscription depuis très longtemps. Mélenchon le fait depuis 2008 aussi. Toutefois, le militantisme ne suffit pas. L'écologiste Mathieu Orphelin a déposé en 2020 d'ailleurs une loi pour que l'inscription sur les listes soit automatique, comme dans de nombreux pays, rappelle l'universitaire Céline Charbonnier.
Que nous sommes un des seuls pays à maintenir une inscription volontaire qui dépend d'une démarche préalable à l'exercice du droit de vote incombant aux citoyens eux-mêmes. On a montré que les malinscrits étaient trois fois plus abstentionnistes constants que les gens qui peuvent voter là où ils résident.
Et ces malinscrits sont majoritairement issus des quartiers populaires. Brandy Boloco a fondé Cité des Chances, jeunes de banlieue.
On va dans des grecs, on peut se poser dans des city-stades. On fait ça dans les villes de Bobigny, Aubervilliers, Évry. Non seulement on les rappelle comment s'inscrire, et de l'autre côté, leur dire, écoutez, vous avez une voix, elle peut compter.
Interroger le ministère de la Citoyenneté fait valoir une plateforme d'inscription en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Problème, elle bug. Ninon Lagarde, créatrice du site d'aide touselus.fr.
En ce moment, mon appartement est devenu une centrale d'appel d'aide à l'inscription sur les listes électorales. On a des bénévoles qui sont au téléphone et en ligne avec des tonnes de personnes qui cherchent à s'inscrire. Et la plateforme d'inscription du gouvernement plante, bug, saute toutes les 5 minutes.
Le gouvernement annonce aujourd'hui une campagne en porte-à-porte pour sensibiliser les malinscrits et rappelle que l'inscription est possible jusqu'au 4 mars.
Laurence Perron, c'est symbolique, mais le Conseil constitutionnel a rendu publique la toute première liste des parrainages enregistrés. Aujourd'hui, il en faut 500 au total. Alors, personne ne les a, mais c'est normal pour un 1er février. L'année dernière, à la même période, aucune liste n'avait été publiée. Emmanuel Macron, le seul à ne pas être encore officiellement candidat, est aussi le seul à dépasser, pour le moment, le seuil des 100 parrainages.
À Grenoble, la cour d'assises a entendu aujourd'hui les proches de Nordal Lelandais.
Nordal Lelandais, jugé pour le meurtre de la jeune Maëlys, l'accusé a promis de s'expliquer. Et ses proches, aujourd'hui, l'ont supplié de le faire, de dire toute la vérité. Trois témoignages et un qui a particulièrement bouleversé la cour. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
Vous suivez les audiences à Grenoble, Mathilde. C'est le témoignage de l'ancien meilleur ami de Nordal Lelandais, Nazim.
La petite fille n'est plus là et c'est à cause de mon pote, commence Nazim, d'une voix calme, posée. Il déroule. J'ai imaginé mille fois ce que j'allais vous dire ici depuis le dernier procès Et il y a cette question qui revient tout le temps. Comment mon pote a pu faire ça? Si je vous parle de lui, je dirais que c'était un super copain, avec qui on passait de super moments, quelqu'un que j'aimais recevoir, qui était bienveillant avec nos enfants, quelqu'un de bien, je n'ai pas honte de le dire. Notre pote, Nono, puis Nazim, parle de Maëlys. Je ne la connaissais pas, mais il n'y a pas un jour de ma vie où je ne pense pas à elle. Des fois, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, quelque chose que j'aurais pu voir? Nazim se tourne vers l'accusé. Je sais qu'aujourd'hui, mon ancien pote m'entend. Et je te le dis, tu n'as qu'une seule chance, et c'est maintenant, celle d'être jugé en homme compris. Ça ne veut pas dire que ce sera pardonné, ça veut juste dire que ce sera compris. Il murmure, c'est la dernière fois que l'on se voit. Sois compris, c'est tout ce que je te souhaite. Son témoignage aura duré 18 minutes. 18 minutes qui ont figé la cour et ému aux larmes. Les yeux rougis, Nordal Lelandais se lève. Est-ce que vous souhaitez parler? Demande la présidente. Il fait non de la tête et pousse le micro. Il ne craque pas.
Mathilde Vinceneux avec Marc Garvenès en direct de Grenoble pour ce procès qui doit durer 3 semaines. Au procès du 13 novembre, interrogatoire aujourd'hui d'Yacine Attar, frère du commanditaire présumé, accusé fantôme puisque présumé mort en Syrie. Yacine Attar à qui l'on reproche d'avoir détenu une clé de la planque dans laquelle s'était caché Salah Abdeslam. Il s'est défendu pied à pied, compte rendu de l'audience à lire sur franceinter.fr. Et venons-en à présent à ce procès qui devait s'ouvrir aujourd'hui à Roubaix. Le maire de la ville, Guillaume Delbarre, convoqué pour détournement de fonds publics par négligence pour avoir contribué à financer une association soupçonnée de promouvoir l'islam radical. Une affaire évoquée dans un reportage de Zone Interdite sur M6 qui a suscité de vifs débats depuis sa diffusion le 26 janvier. Le procès a été renvoyé au mois d'octobre. Ariane Grissel.
Des avocats avaient demandé ce renvoi en expliquant ne pas avoir eu le temps d'étudier le dossier, mais certains ont aussi invoqué l'émoi médiatique autour de cette affaire depuis la diffusion du reportage. Le rendez-vous judiciaire, lui, a été fixé avant la programmation sur M6. Le maire de Roubaix est soupçonné de ne pas avoir vérifié à qui étaient destinées les subventions versées par la municipalité. En l'occurrence, cette structure, vue ensuite dans zone interdite, chez qui les autorités disent avoir repéré des cours d'arabe à caractère culturel, est soupçonné de prosélytisme sous couvert d'accompagnement scolaire, ce que réfutent ses responsables. Cet après-midi, l'un des avocats a appelé à rendre la justice dans la sérénité, alors que plusieurs personnes intervenant dans l'émission ont reçu des menaces de mort. Le maire, Guillaume Delbarre, accusé dans certains messages de s'être prostitué aux islamistes, mais aussi un jeune homme témoignant à visage découvert, menacé pour sa part de décapitation. C'est lui qui a alerté la préfecture dès 2020 sur l'association mise en cause. Cet habitant de Roubaix a été placé sous protection policière, tout comme Ophélie Meunier, la présentatrice du magazine, également cible de messages malveillants.
Ariane Grissel, en bref, la justice décide la dissolution de la cellule Déméter. Cette cellule de gendarmerie, créée en 2019, était conçue pour lutter contre l'agribashing. Mais selon les ONG, elle portait atteinte à leur liberté d'expression, les menaçait dans leur activité de lanceur d'alerte. La justice administrative leur a donné raison.
Et voici une montagne de déchets qui ne cesse de grandir.
On en a tant manqué pourtant au début de la pandémie, de ces masques, de ces gants, de ces kits de tests. Aujourd'hui, ce sont des déchets en très grand nombre. Leur volume a été multiplié par 10 et ça commence à inquiéter l'OMS qui appelle à ne pas confondre lutte contre le virus et débauche de plastique. À Genève, Jérémy Lanche.
Tous ceux qui ont déjà fait un autotest le savent, une boîte renferme plus de sachets plastiques que de composants véritablement utiles pour réaliser le test. L'OMS a calculé que les 140 millions de kits que l'ONU a envoyés pendant la pandémie ont généré 2600 tonnes de déchets et 731 000 litres de liquide infectieux, soit de quoi remplir le tiers d'une piscine olympique. On peut pourtant lutter contre la pandémie sans faire déborder les poubelles, explique la docteure Margaret Montgomery du département Hygiène et Santé de l'OMS.
La première chose à faire, c'est déjà de ne pas utiliser du matériel de protection si on n'en a pas besoin. Les gants sont par exemple inutiles dans tout un tas de circonstances, y compris pour la vaccination. La deuxième recommandation, c'est aussi de réfléchir aux emballages de ces produits. Ça représente un volume énorme de déchets. Si on peut utiliser plus de papier et arrêter d'emballer chaque pièce dans un plastique individuel, l'impact serait très important.
L'autre problème, c'est que tous les pays ne disposent pas des infrastructures suffisantes pour éliminer correctement ces déchets. C'est surtout vrai dans les pays en voie de développement, où l'explosion de matériel médical usagé peut poser un risque pour le personnel de santé, mais aussi les personnes qui vivent à côté des sites où sont entreposés ou brûlés les déchets. Une autre solution passe par le recyclage. Des équipements non toxiques comme les masques peuvent par exemple être réutilisés pour l'enrobage des routes. Genève, Jérémy Lanche, France Inter.
Un chiffre qui témoigne du réchauffement climatique. Aussi ce soir, la calotte glaciaire du Groenland a perdu 4700 milliards de tonnes en l'espace de 20 ans. Un volume incroyable responsable à lui seul de la hausse du niveau des océans de plus d'un centimètre. La dernière fois qu'ils ont fait grève au niveau national, c'était pour avoir plus de bras, il y a 4 ans. Aujourd'hui, ce sont les hausses de salaire que réclament les agents de Pôle emploi. Un quart des salariés en grève aujourd'hui. Le mouvement lancé à l'appel de tous les syndicats a été très suivi parce qu'il révèle aussi la fatigue des conseillers dont les missions s'empilent. Olivier Coppel est conseiller à Pôle emploi et délégué CFTC à Nancy.
Ma lettre, c'est justement venir le matin au travail en se demandant si on va réussir à faire quelque chose. C'est quand même fou de se dire le soir quand on rentre à la maison que peut-être qu'on a fait un boulot de merde. Il y a des plans d'action qui se superposent et donc même les managers, ils ont toutes ces infos qui viennent du haut, tout est descendant et même eux ne savent plus nous donner les priorités. Donc en fait, sur le terrain, il y a un imbroglio comme ça qui se crée et on sait plus par où commencer. Quelqu'un qui a un tant soit peu du mal à organiser son travail, il va se dire mais mince, par quoi je commence aujourd'hui? Dans une journée, on peut avoir à recevoir des demandeurs d'emploi, entre-temps traiter des mails qui sont en nombre conséquent. À la fin de la journée, on est censé avoir traité tous les mails parce qu'on a un cahier des charges à respecter. Entre-temps, il peut y avoir le téléphone qui sonne, les managers qui nous appellent pour traiter quelque chose d'urgent. Ça, c'est très très dur à supporter au quotidien.
Témoignage France Bleu Lorraine au micro de Monde Chibani, preuve que les salaires sont trop bas dans l'entreprise selon les syndicats. La moitié des agents touchent la prime inflation du gouvernement de 100 euros. Quant à la prime Macron, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, elle a été versée à près de 4 millions de salariés l'année dernière, 2 millions de moins que l'année précédente. Et pour un montant de 500 euros en moyenne, c'est aussi le montant minimum. Le travail, en 2 ans de pandémie, notre rapport à ce travail a changé. Le télétravail a fait irruption dans les entreprises. Et sans doute pour longtemps. À partir de demain, les 3 jours à la maison ne seront plus obligatoires, tout comme le port du masque à l'extérieur et les jauges qui seront levées. C'est la première étape de la levée des restrictions. Et pourtant, certains se sont habitués au bureau, avec vue, sur le jardin. C'est même l'occasion pour des départements qui manquent d'habitants d'attirer une nouvelle population. L'Ariège mise tout dessus à grand renfort de campagne de communication. Reportage signé Martin Delacoux.
Dans ce clip, la nature ariégeoise est verdoyante et les ordinateurs dernier cri. Le but est clair, faire venir les télétravailleurs dans le département, en particulier les habitants de la métropole toulousaine située à 1 heure environ. Parmi eux, Jérôme de Ramex, travailleur indépendant dans le marketing. Sa famille et lui se sont installés en septembre à Vernajoul.
J'avais envie de retrouver un petit peu de vie de campagne. L'Ariège m'a toujours fait de l'œil depuis que je suis à Toulouse, parce que c'est vraiment pas loin, on allait beaucoup se promener, etc. Voilà, on s'est dit, c'est le moment de sauter le pas, et on a déménagé dans ce petit village à côté de Foix.
Ce genre de profil peut être accompagné par l'agence Ariège Attractivité, cet organisme de promotion qui rassemble le département, les intercommunalités ou la chambre d'agriculture, à nouer des liens pour faciliter la recherche de logement ou la scolarité des enfants, mais pas seulement. Didier Cus est le directeur de l'agence.
On a créé un réseau donc d'entreprises et aussi de collectivités locales qui nous font état donc de leurs offres d'emploi sur lesquelles on peut proposer des conjoints et conjointes de télétravailleurs qui viennent s'installer.
Et l'agence de présenter les avantages du département, la présence de 10 tiers-lieux pour télétravailler et le prix du logement. Pour louer un 50 mètres carrés, comptez 400 euros. À l'achat, c'est autour de 1200 euros le mètre carré.
Martin Delacoux, voici un tout jeune retraité, Tom Brady, quarterback, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du foot américain. 22 ans sur les terrains, 7 Super Bowls, c'est un record. Il a donc annoncé aujourd'hui sa retraite sportive. Et en voici d'autres qui reprennent du service. La joyeuse équipe de l'Auberge espagnole de Cédric Clapiche, 20 ans après, va se retrouver pour tourner une série, Salade grecque, c'est comme ça que ça va s'appeler. Okay. Et elle va s'intéresser à la génération suivante, les enfants de Romain Duris.
Eh bien, merci beaucoup, on a hâte quand même. Merci beaucoup, Hélène Filier, bien sûr, à demain. Nous, dans un instant, c'est le téléphone sonne, on parle des changements de nom, sous des motifs bien précis qui sont en train d'être simplifiés par la loi. Ça parle d'identité, d'affect, de transmission aussi, c'est dans un tout petit instant, au 01 45 24 7000, mais l'œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et Jean-Pierre Hameau, le département de l'Aude est en vigilance orange, vent violent.
Oui, Fabienne, la Tramontane et le Cerse vont se renforcer d'ici ce soir dans leur domaine. On attend des rafales voisines de 130 voire 140 km par heure. Le pic de vent violent est attendu entre 22h ce soir et 2h du matin. En revanche, le Mistral qui a soufflé jusqu'à 125 km heure cet après-midi va baisser ce soir. Les rafales ne dépasseront plus la barre des 100 km heure la nuit prochaine.
Mais toujours venteux en Méditerranée.
Oui, Mistral et Tramontane resteront au menu de la journée, mais les rafales attendues seront quand même moins fortes qu'aujourd'hui, que ce soir. Et elles seront voisines de 80 ou 90 km par heure. Côté ciel, vous allez retrouver du soleil vers les Pyrénées et leur piémont, mais aussi autour du golfe du Lion, en région PACA, ainsi qu'en Corse. En revanche, le temps restera gris et faiblement pluvieux entre le Massif central et la région Grand Est, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté. On attend de faibles chutes de neige sur le Jura et le nord des Alpes, au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Et puis dans les autres régions, après une matinée sous une bonne grisaille matinale, les nuages laisseront tout de même une petite place à de timides éclaircies. Les températures maximales seront souvent 12 pour la saison. Prévoyez 10 degrés à Dijon et Lyon, 11 à Lille et Bordeaux, 12 à Paris, 17 à Toulon, 18 à Nice. Et puis on attend 20 degrés à Bastia.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup.